voudrais vous raconter l'histoire d'une odeur, ou plutôt l'histoire d'une femme. Elle n'est pas retournée dans cette maison de vacances depuis 30 ans. Les dernières vacances qu'elle y a passées, c'était l'année de ses 16 ans. Elle a aujourd'hui 3 enfants et vient de faire 4 heures de route pour retrouver enfin le petit chemin qui monte, qu'elle montait à l'époque en vélo, puis en mob, entourée d'une flopée d'amis et de cousins. Aujourd'hui, c'est un homme seul qui l'accueille, son grand-père qu'elle voit d'habitude quand il monte à Paris. Mais il ne monte plus à Paris, il est trop fatigué. Lorsqu'il lui ouvre la porte, elle remarque tout de suite que rien n'a changé, rien. Les meubles sont à leur place, les tableaux aussi, à leur place depuis 30 ans. Mais on lui avait dit, on l'avait prévenu, elle n'est pas plus surprise que cela. Elle monte les escaliers pour se rendre à l'étage, et il y a ce bruit. Le bruit des marches qui grincent, le même bruit exactement qu'il y a 30 ans, quand, ado éveillé dans son lit, elle entendait ses parents aller se coucher, ou quand, plus jeune encore, elle était terrorisée en imaginant le pas d'un voleur, ou pire, d'un de ces ogres qui habitent les forêts de Bourgogne et n'en sortent que pour peupler les pages des faits divers. Il y a bien ce bruit des marches qui grincent qui la ramène 30 ans en arrière. Mais ce n'est rien à côté de ce qui se produit juste après, quand son grand-père lui ouvre la porte de la salle de bain et que, d'un coup, tout revient. Cette odeur, ce parfum de savon à l'amande, cette fraîcheur humide, humide et légèrement boisée. Cette fois, elle est complètement revenue dans le passé. Elle le respire à plein nez. C'est un shoot ultra délicat et ultra puissant en même temps. C'est un voyage dans le temps. Elle a 12 ans maintenant et elle entre dans cette salle de bain. Elle l'aime bien parce qu'il s'y retrouve seul et parce qu'il y fait délicieusement frais. Parce qu'elle s'y sent à la fois libre et protégée. Elle ne connaît pas ces lignes de Proust. Mais quand, d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans réfléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Elle ne connaît pas ces lignes de Proust, mais elle est d'accord avec lui. Pour remonter le temps, il suffit d'avoir du nez. Mais comment est-ce possible? Pourquoi les odeurs ont-elles un pouvoir de réminiscence plus fort que les images? Et peut-être même que les sons? Que réveillent les odeurs? Que révèlent les parfums? Pour en parler ce matin, j'ai la grande joie de recevoir un nez. Et pas n'importe quel nez. Le nez de la maison Cartier, qui fut auparavant celui de la maison Guerlain. Merci Mathilde Laurent d'être venue nous rejoindre sous le soleil de Platon pour nous apprendre à sentir et peut-être même à nous souvenir.
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
Mathilde Laurent, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. C'est pas tous les jours qu'on est face à un nez. Je voudrais commencer directement par la question que je viens de poser. Pourquoi cette relation très spéciale de l'odeur et du passé, au fond?
Alors, il y a une raison qui est toute simple, qui est physiologique, en fait. C'est le chemin que parcourt l'odeur dans le cerveau. En fait, on s'est rendu compte que le chemin neurologique, en fait, est très atypique. Donc déjà, pour cette première raison, le sens de l'olfaction est un sens unique, un sens à nul autre pareil, parce que son chemin dans le cerveau, justement, va passer par les centres de l'émotion, des instincts et de la mémoire.
Mais plus que la vue ou l'ouïe ?
Exactement. En fait, j'ai l'habitude de dire que la vue, l'ouïe sont des sens de raison, en fait, parce qu'ils vont directement à des zones du cerveau, en fait, qui sont celles de la comparaison, de l'analyse. Ouais. Et donc, tout de suite, en fait, on raisonne. Dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on entend quelque chose, on raisonne. Alors que dès qu'on sent quelque chose, en fait, on est incapable de raisonner parce que ces centres-là ne sont pas activés et c'est seulement l'instinct et la mémoire
alors...
qui jouent.
On raisonne avec un « et non pas avec un « i ».
Voilà, exactement, ouais. On raisonne, on sent, en fait. Ouais. On sent et avec tout son corps et avec tout son cerveau.
Alors c'est marrant ce que vous dites, Mathilde Laurent, donc née chez Cartier, parce que Hegel, le grand philosophe allemand, dans son esthétique, expliquait que la vue et l'ouïe étaient les sens les plus directement intellectualisés, reliés au cerveau, au fond, enfin à cette partie du cerveau qui est l'intellect, qui raisonne « i ». Et justement, cela expliquerait pourquoi dans l'histoire de l'art, il y a un primat des arts visuels et auditifs, et une dévalorisation de cet art de l'odorat, mais ça explique aussi pourquoi il y a quelque chose de plus primitif, en fait, dans l'odorat. Alors, dans votre passé à vous, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris que vous aviez un nez?
Alors, Si on cherche ce moment-là, on va arriver assez tard. On pourrait même dire que j'ai compris que j'avais un nez seulement quand j'ai commencé à exercer mon métier. Parce qu'avant, avant de commencer à exercer le métier de parfumeur, on peut avoir de l'attirance pour les odeurs, on peut avoir de la joie pour l'odeur et on peut avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de sensations olfactives, mais en fait on est incapable de savoir si on va avoir justement les talents qu'il faut pour devenir parfumeur, parce que c'est encore autre chose.
Quel talent ? Alors déjà, avant de vous laisser répondre, je précise pour nos auditeurs que vous êtes créatrice des parfums suivants, donc chez Guerlain, Pamplune, votre premier, je crois, Chalimar Light, et puis chez Cartier, Roadster, Baiser Volé, tout ça, c'est tout un monde, Déclaration d'un soir, La Panthère, L'Envol, et puis plus récemment, Cara.
Cara et les rivières qui sortent en ce moment.
Les rivières, on va en parler, dans Rivière, il y a vie, c'est assez joli.
Tout à fait, et Rire.
Oui, et Rire. Mmh. Et alors, donc, vous disiez qu'il fallait quelques talents, que c'était pas simplement aimer, sentir. Alors, de quel talent parle-t-on?
En tout cas, c'est vrai que voilà, cette idée de savoir que j'avais un nez, en fait, je l'ai compris vraiment très tard. Mais les talents qu'il faut pour être parfumeur, en fait, reposent plus sur l'imagination. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, le fait d'imaginer un parfum dans sa tête,
c'est fou,
de manière complètement abstraite.
Bah déjà, je vous arrête, mais c'est pour mieux vous relancer, parce que c'est très fou comme idée. Vous avez l'idée d'un parfum comme un écrivain aurait l'idée d'un livre, ou comme un sculpteur aurait l'idée d'une sculpture.
Exactement. Et comme cette jeune femme dont vous parliez dans le générique a l'idée de ses parfums quand elle repense à son enfance. Elle peut convoquer l'odeur de cette salle de bain quand elle repense à la maison. Si elle se concentre, l'odeur de la salle de bain va revenir dans sa tête. Moi, j'ai la capacité, comme tous les parfumeurs, justement, et c'est là que réside le talent sans prétention, mais de vraiment pouvoir imaginer un parfum inédit, abstrait, reposant sur un mélange d'ingrédients connus, mais dont le résultat du mélange sera inédit.
Et que vous essayez de voir, en fait, avant, quoi, de le voir avec le cerveau presque.
Oui, je le vois avec le cerveau, mais je dirais que je le vois pas vraiment.
Vous en avez l'idée ?
Je l'imagine, en fait. C'est vraiment une imagination parce que ça convoque tous les sens, justement.
Alors ça, c'est très intéressant. Parce que l'imagination, c'est un sujet qu'on adore ici, sous le soleil de Platon. Imaginez, au fond, c'est associer des éléments qu'on connaît, mais de manière nouvelle. On n'imagine jamais à partir de rien. D'ailleurs, c'est Descartes qui disait que on croit souvent que l'imagination est une fantaisie illimitée. En fait, on est assez contraint dans l'imagination. D'où ma question, quand vous imaginez un parfum, c'est toujours l'association originale de notes déjà connues, ou alors ça va plus loin dans l'inconnu?
Ça va un petit peu plus loin parce que effectivement, ça repose sur cet apprentissage que j'ai fait à l'école, à l'ISIPCA.
ISIPCA, ça veut dire quoi ?
ISIPCA, ça veut dire Institut supérieur international du parfum.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-bas ?
Alors, on apprend justement des ingrédients. On apprend à les sentir d'abord. Je crois que le grand apprentissage de cette école, c'est comment sentir. Sentir à l'aveugle, sentir pendant des heures, sans savoir ce qu'on sent, justement pour aller au bout de son imagination et au bout de ses sensations. On vous tend une mouillette sur laquelle il n'y a rien d'écrit. On vous la fait sentir et là, vous devez écrire des pages et des pages parce que c'est à ce prix-là, en fait, que vous mémoriserez cet ingrédient d'une manière assez indélébile, et c'est à ce prix-là que vous serez capable de le convoquer dans votre tête, et c'est à ce prix-là que vous serez capable de l'imaginer, cet ingrédient, en mélange avec d'autres ingrédients que vous connaissez autant sur le bout des doigts, je dirais.
C'est passionnant, mais alors il y en a combien comme ça, des ingrédients qu'on apprend à mémoriser, en gros ?
Alors, dans cette école, en fait, moi j'ai fait cette école en 2 ans, sous son ancienne forme, et on apprenait 500 ingrédients.
Ah, c'est marrant.
Et donc, on sortait de l'école avec déjà une capacité à imaginer et à fomenter, je dirais, des parfums.
Mais alors, ce qui est fou, c'est que on fait toute la musique avec 12 notes, mais par contre, il y a 500 odeurs.
Mais il y en a même encore plus. On prête au parfumeur une palette de 3000 ingrédients. Il faut savoir que les parfumeurs ne connaissent pas sur le bout des doigts 3000 ingrédients, mais ils ont la possibilité, molécules et ingrédients naturels confondus, d'utiliser ces 3000 ingrédients. Un parfumeur travaille en général avec entre 50 et je dirais 300 ingrédients qui sont quelque part ses outils préférés, ses outils à tout faire. Et puis forcément, en tout cas dans mon cas, pour chaque projet nouveau, je vais chercher des ingrédients nouveaux pour pouvoir produire justement un parfum inédit.
Et alors ce parfum que vous cherchez à créer, je crois que vous en faites quand même plusieurs par an chez Cartier. Quand vous l'assemblez ou vous le composez, il faut plutôt mettre des choses qui vont ensemble ou qui ne vont pas ensemble. Vous comprenez la métaphore, c'est comme en musique, assonance, dissonance. On a reçu ici beaucoup de compositeurs. Oui. On a beaucoup abordé cette question. Qu'en est-il de l'art du nez ?
Alors vraiment, il faut essayer, comme dans tous les arts, en fait, de ne pas considérer l'ingrédient avec ce qu'on sait de cet ingrédient. Il faut le considérer juste pour son essence, ce qui va bien ici, juste pour l'outil qu'il représente. Il faut même presque en oublier la culture. Utiliser la rose, ah oui, sans savoir que c'est une rose. Utiliser l'acétate de citrohexénil sans savoir que tout le monde considère que ça sent l'herbe coupée. Mais plutôt pour son effet dans la formule, la fraîcheur qu'il va apporter. Voilà, il faut essayer d'oublier complètement justement ses émotions, même si c'est le propre de l'olfaction. Il faut, pour un parfumeur, arriver à travailler sans émotion et sans culture.
Ouais, je vois, c'est très intéressant. Vous voulez dire, il faut débarrasser une odeur ou une essence de sa charge sociale, culturelle, identitaire, en quelque sorte, identifiée, pour la rendre à sa nouveauté, quoi.
Exactement. Et il faut même en oublier presque son passé de parfumeur et comment on l'a utilisé dans un précédent parfum et comment elle a fonctionné dans une précédente formule, parce qu'un ingrédient a ça de commun avec une personne que, en fait, on ne peut pas prévoir son comportement vraiment dans un groupe donné. Donc, il faut vraiment même presque oublier tout ce qu'on sait de la parfumerie.
Ça veut dire qu'on y va quand même en tâtonnant.
Bien sûr. Même, j'appelle ça de l'errance.
Vous êtes une apprentie sorcière ?
J'aimerais bien, en tout cas, j'aime bien l'idée.
Ouais. Alors, de l'errance, c'est très beau d'entendre l'errance dans le rapport à la créativité. Au fond, le créateur de parfums n'est pas tout puissant, ce n'est pas un démiurge. C'est quelqu'un qui cherche, qui tâtonne, qui fait des assemblages un peu audacieux.
Exactement.
Et qui s'écoute aussi.
Exactement.
C'est marrant de s'écouter pour un nez.
Tout à fait, qui s'écoute, qui se tâte, on peut dire, ouais. Qui se regarde. Parce que voilà, il y a un dialogue intérieur permanent. Je dis souvent que ce métier est un métier d'hyper persévérance. Donc il faut vraiment être son meilleur ami et se motiver tous les jours pour reprendre. Parce que finalement, je dis souvent aussi que on essaye de plier la nature, oui, pour qu'elle veuille bien faire ce qu'on a décidé dans son pauvre cerveau de parfumeur d'essayer d'accomplir. Mais la nature seule, en fait, reste le maître.
Plier la nature, dans ce cas, c'est un peu autoritaire.
Lui demander de se plier gentiment, en, oui, fait, en essayant différents ingrédients pour essayer d'arriver à faire une forme qui soit pliée.
Vous voulez dire, voilà, que même la chimie est au service presque de la nature, plutôt que le contraire ?
Alors, dans mon cas, dans ma manière de travailler et dans ma vision de la parfumerie, oui, tout à fait, puisque j'utilise la chimie vraiment pour reproduire la nature au plus proche.
D'accord.
Parce que il faut savoir que les ingrédients naturels ne sentent pas forcément comme la nature. C'est pas parce qu'on
vous voulez dire que ce sont des essences qui, voilà, en étant arrachées à leur milieu, n'ont pas la même odeur que dans leur milieu naturel.
Exactement, parce qu'en plus elles sont ultra transformées.
Ouais.
Donc il y a
purifiées par exemple.
Non, pas purifiées, mais vraiment c'est le processus de distillation,
ouais,
qui nous permet d'obtenir donc soit des essences, soit des absolus. Et dans ce processus, il y a un chauffage. La distillation se fait dans l'eau à 100 degrés. Donc d'une certaine manière, on va cuire la nature. Et
alors,
à la fin, la nature ne sent plus comme crue, je dirais.
Ouais, c'est très beau, et le philosophe que je suis ne veut pas s'empêcher de relever que vous avez dit pour arriver à des essences ou des absolus. Expliquez-nous un peu la différence. Surtout qu'on est sous le soleil de Platon, et que Platon recherchait les essences et les idées.
Alors la différence, elle est juste technique en fait. Malheureusement, on va pas entrer en tout cas comme ça dans la philosophie. C'est une différence de solvant. Alors peut-être que si justement, on va peut-être entrer dans quelque chose de plus profond, mais suivant le vecteur, suivant le support, le solvant qu'on va utiliser, si on utilise de l'eau, on va obtenir une essence, et si on utilise des solvants volatiles, comme peut l'être le CO2 supercritique par exemple, on va obtenir des absolus après plusieurs opérations. Et l'absolu en fait est quelque chose qui va être souvent plus dense, plus profond, et dans lequel on va recueillir beaucoup plus de cire, de colorants. On va attraper beaucoup plus de choses de la plante. Et l'essence sera plus légère, plus transparente. Oui. Et voilà.
Alors, puisque vous parlez d'absolu, je voudrais vous parler de relatif. Parce que si on s'intéresse aux émotions esthétiques, souvent, quand on a une émotion esthétique, par exemple devant un paysage, ou même souvent en écoutant de la musique, et qu'on dit « c'est beau », on a l'impression que ce qui vient de sa subjectivité, quelque part, pourrait être universellement partagé. Assez facilement. C'est toute la thèse de Kant qui explique qu'on dit « c'est beau » parce qu'on pense que sa subjectivité est quelque part un critère universel. Il me semble que ce n'est pas le cas dans l'odorat. Et quand on dit « ça sent bon », on pense que c'est surtout pour soi et peut-être pas autant pour les autres. Comment expliquer qu'il y a quelque chose peut-être de plus relatif dans le rapport à l'odeur que dans le rapport à des émotions esthétiques, visuelles ou auditives?
Mais c'est Bachelard qui dit tout simplement que toute odeur aimée est le centre d'une intimité. Et ce qu'il veut dire, en fait, c'est que toute odeur aimée ou détestée, en fait, correspond à un événement psychologique, à quelque chose de personnel. Et c'est tout à fait vrai. En fait, puisque l'olfaction fait un chemin très particulier dans le cerveau, toute odeur découverte, toute odeur sentie ou vécue, en fait, va se colorer inexorablement, en fait, des sensations qui l'entoure. Elle va passer dans tous ces centres nerveux du cerveau que sont les centres de l'émotion, des instincts, des peurs. Alors, chaque odeur va être colorée de ce qu'elle a traversé.
Et notamment plus du vécu et de la mémoire de chacun.
Exactement.
Peut-être plus que face à un tableau ou face à une musique. Et bien justement, écoutons quelqu'un qui devrait vous parler.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est bottée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux.
Alors évidemment, on ne pouvait pas s'en passer. Serge Gainsbourg, initiale bébé, elle ne portait rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Il se trouve que justement, Mathilde Laurent, qui est avec nous ce matin, aujourd'hui née chez Cartier, a commencé chez Guerlain. D'ailleurs, de manière assez culottée, je crois, vous étiez jeune, vous avez demandé un stage, et puis ça a commencé comme ça, et très vite, vous êtes retrouvée à travailler chez Guerlain.
Tout à fait, oui, j'ai demandé un stage parce que je pensais que tout le monde allait demander un stage à Monsieur Jean-Paul Guerlain, qui était ce jour-là présent dans l'école.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 23 ans. Et en fait, j'étais la seule, finalement, à lui avoir demandé un stage. Et c'est pour ça que je l'ai obtenu.
Ben voilà, ça commence comme ça, les belles histoires. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur l'histoire et sur l'histoire de l'art. Et pourquoi, et sur l'histoire de l'Occident, d'ailleurs, pourquoi cette dévalorisation, au fond, de l'odorat ? Comment ça se fait qu'on ait tant valorisé les autres sens, même pour parler de la pensée ? Finalement, pour parler de la pensée, on dit « je vois », ce que tu veux dire. On dit « j'entends ». C'est-à-dire, l'entendement, c'est la raison, chez Descartes, par exemple, ou chez Spinoza. Pour Platon, comprendre, c'est contempler une idée. Mais c'est jamais la sentir. Alors pourquoi ?
Parce que je pense que finalement, ce sens a toujours été considéré comme trop instinctif, et donc comme trop animal. Et dès l'instant où on a séparé, et où l'homme a voulu s'élever au-dessus de la condition animale et devenir dominant, en fait, il a fallu réprimer quelque part toute forme d'animalité et donc de sensorialité.
Certes, et on comprend bien, parce que le nez ressemble à la truffe, au groin ou au bec, mais le problème c'est que l'homme s'est relevé. Et finalement, dans une lecture darwinienne, l'homme se relevant, ça libère le larynx, ça libère la parole, le regard se porte vers l'avenir, mais quelque part, le nez aussi. C'est Hegel qui disait, le museau s'est rétréci, c'est devenu un nez. Ça aurait pu parler de spiritualité, mais en fait, pas trop. Il y a quelque chose comme une méfiance à l'égard du nez.
Mais en fait, je pense que ça a éloigné le nez, justement, aussi. Le nez est devenu moins fonctionnant, probablement, parce que plus éloigné de la Terre, plus éloigné des autres corps. Et donc, il y a eu, je pense, vraiment comme une espèce d'atrophie, comme une cessation des perceptions et des messages qui pouvaient en être utilisés. On a perdu, par exemple, tous ces instincts et beaucoup de gens retravaillent justement sur le fait de sentir ce qu'ils mangent pour redévelopper l'instinct de manger ce qui est bon pour soi.
Ah oui, vous voulez dire, en retrouvant cette espèce d'association en fait de l'odorat et du goût, on pourrait avoir une revalorisation de l'odorat et peut-être aussi, dans l'histoire de l'art, à la limite, il pourrait y avoir des émotions olfactives bientôt aussi valorisées que des émotions visuelles ou auditives.
Bien sûr, parce que les émotions olfactives, pour moi, c'est des émotions qui ont une force de contemplation et d'élévation inégalée.
Inégalé.
Et c'est pour ça que je travaille sur ça. C'est pour ça que j'appelle ça le shoot olfactif, justement, quand on prend une odeur et qu'elle est accompagnée du juste environnement et qu'elle n'est pas juste sentie dans des conditions où on y prête à peine attention et où on va à peine la sentir, justement. Pour moi, le pouvoir de l'odorat, il est presque supérieur. Alors, je dis ça juste de ma place, c'est juste moi qui le pense. Mais en tout cas, on voit qu'une émotion olfactive, en fait, et qu'un choc olfactif esthétique, en fait, bouleverse le corps entier, bien plus que juste la vision d'une beauté visuelle.
Donc une odeur plus forte qu'un tableau, c'est un peu ce que vous dites.
Alors vraiment, moi je pense qu'une odeur, en fait, Sartre a dit, sentir l'autre, c'est l'avaler.
Oui.
Donc sentir une odeur, c'est proprement la prendre à l'intérieur de son corps. Voir un tableau, c'est bien sûr quelque chose se passe dans le corps, mais rien du tableau ne vous pénètre.
Vous pensez que, parce qu'on a beaucoup parlé du rapport au passé, de cette odeur qui réveille le passé, peut-être plus qu'une image. Et d'ailleurs, dans la petite histoire que je vous ai racontée, au fond, les bruits et les tableaux marchaient moins bien que les odeurs. Mais si on s'intéresse maintenant au rapport à l'avenir, est-ce que vous croyez que quelque chose dans notre rapport à l'odorat va sauver notre avenir, peut-être sur un plan écologique? Est-ce qu'on va avoir besoin de retrouver son nez pour avoir du flair et ne pas disparaître comme espèce?
Tout à fait. En fait, pour moi, vraiment, c'est la beauté olfactive qui va nous garder humains.
Ah bon?
Ouais. Parce que justement, en fait, cette beauté olfactive, en fait, elle réveille notre sensorialité au sens large du terme.
Et aussi notre rapport aux autres, peut-être.
Exactement, notre rapport aux autres, justement, notre rapport à la différence aussi. Savoir accepter des odeurs, savoir s'ouvrir à une odeur, savoir accepter un choc esthétique olfactif.
Un shoot, comme vous dites.
Un shoot, justement, c'est aussi une ouverture à l'inconnu. Et justement, le nez, c'est un peu le sens de l'inconnu. C'est quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit « je le sens, je le sens pas ». Voilà, le nez est vraiment archaïquement...
Les ados, ils disent plutôt « je le calcule pas ». On en est encore dans le Descartes.
C'est vrai que... Mais ça montre justement à quel point on a besoin de retrouver nos instincts. Parce que si on en est à calculer des personnes, ça veut dire qu'on est à un stade de développement de l'homme qui n'est que raisonné, raisonnable et qui ne passe que par la vue et par l'ouïe. Et il est grand temps, justement, parce que c'est la dernière chose que l'intelligence artificielle ne nous a pas encore ravis, il est grand temps de revenir à nos émotions, au message inconscient de l'olfaction et à notre sensorialité qui est ce qui nous reste d'humain et d'encore spécifique par rapport à l'intelligence artificielle.
Oui, c'est très intéressant, d'autant que l'odeur, c'est ouverture à l'altérité, vous l'avez
exactement
dit, mais aussi à une altérité qui, mais au sens positif, nous envahit davantage. C'est vrai que quand on voit quelqu'un, eh bien, on peut être surpris par son apparence, mais son apparence ne rentre pas en nous.
Exactement.
Mais quand on sent quelqu'un et qu'on est surpris, d'ailleurs, ça peut être aussi très érotique, ça peut être très excitant, une
tout
odeur. Parfois, on est surpris d'être excité par une odeur qu'on pourrait penser pas parfaite, hein, mais qui, au fond, nous excite. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ce qu'on pense être consciemment. Et quelque part, l'odeur nous montre que nous sommes plus complexes et plus mélangés en nous-mêmes que peut-être nous le pensons. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'odeur de l'autre pénètre en moi, en fait. De façon plus intime, je sais plus de choses de l'autre en le sentant qu'en le regardant. C'est ça que vous dites.
Exactement. Et c'est vraiment très important, en fait, de reprendre vraiment conscience de ce que l'odeur nous dit, nous suscite, et de réapprendre à écouter. Mais tout en faisant une voie d'élévation. C'est-à-dire, on entend, on comprend, on interprète, et puis on dépasse. Parce que justement, s'ouvrir à l'autre, ça n'est pas avoir des jugements à l'emporte-pièce dès qu'on sent une odeur, et ça n'est pas juste du « j'aime, j'aime pas ».
Il faut apprendre
c'est
à
juste,
sentir.
Voilà, c'est apprendre à sentir, apprendre à accueillir, apprendre à se détacher de ses dogmes, de ses barrières, de ses préjugés.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, ça vous est arrivé à vous, dans votre métier, j'entends, d'accueillir un élément de parfum ou d'odeur qui au début ne vous plaît pas, et de vous dire, mais en fait, je vais le prendre, je vais l'associer, et que ça donne un résultat qui vous plaise?
Alors moi, ça m'est peu arrivé, je dirais, parce que j'estime que justement, une des chances que j'ai eues dans mon éducation et dans ce passé qui forme tellement l'olfaction psychologiquement et par le jugement, j'ai été éduquée justement sans jugement. Donc,
Vous êtes une sceptique, vous étiez un enfant sceptique.
Alors, je dirais plutôt que je suis une curieuse, en fait.
Vous étiez une enfance en Corse, je crois.
Alors, en Corse et aussi en Normandie et aussi à Paris. J'ai pas grandi en Corse, j'ai grandi à Paris avec beaucoup de séjours en Corse. Et du coup, vraiment, cette idée de ne pas juger, d'accueillir justement... Qu'est-ce qui est moins grave qu'une odeur, justement, à accueillir sans jugement? On peut sentir une odeur...
Vous voulez dire, si ça pue, ça n'est pas, c'est un jugement trop rapide.
Exactement, et puis si ça pue, en fait, alors c'est une fois de plus, c'est archaïque, et c'est là que c'est passionnant. Une odeur qui pue, en fait, archaïquement, elle doit nous éveiller Et nous amener à nous méfier, justement. Mais aujourd'hui, on est capable de savoir que quelque chose qui pue n'est pas forcément dangereux. On vit dans des sociétés où peu de choses sont dangereuses. Donc la puanteur n'est plus synonyme de danger. Donc on peut accueillir la puanteur.
Alors que par le passé, elle l'a été quand même.
Bien sûr,
notamment de mort.
Bien sûr, puisque voilà, la putréfaction, et puis même l'homme est programmé pour ne pas manger ses excréments, ce qui est la première puanteur qu'on apprend. Mais il se trouve que moi j'ai eu une enfance où justement on m'a ouvert les sens en ne plaçant jamais de « ça pue, ça sent bon, j'aime pas, c'est beau, c'est laid ».
La rose est sans pourquoi et le sage sans jugement. C'est ça la sagesse au fond. En tout cas, de suspendre son jugement, de le différer. Vous avez dit à plusieurs reprises entendre ce qu'on sent. Donc on entend une correspondance. Est-ce que vous travaillez les correspondances dans votre métier entre des images et des parfums, des sons et des parfums ?
Complètement, et depuis toujours, en fait, je fais créer pour chacun de mes parfums ce que j'appelle un shoot olfactif, qui est justement un ensemble d'images, de sons, de sensations, de mots aussi, très important, qui sont préparés pour être reçus en même temps que l'olfaction. Donc, sentir un parfum chez Cartier, c'est sentir en voyant, entendant et recevant tout un ensemble d'informations, mais qui sont uniquement destinées à accompagner l'olfaction.
Des associations, correspondances,
voilà,
choses comme ça.
Voilà. Je mets en œuvre, je donne à voir, je donne à entendre et à comprendre et à ressentir tout ce que j'ai eu dans la tête lors de la création d'un parfum.
Ça m'énerve souvent que les grandes maisons, je crois que c'est pas d'ailleurs le cas de la vôtre, Cartier, finalement refusent de dire ce qu'il y a dans un parfum. J'y vois là un snobisme un peu agaçant, comme si on nous amputait finalement d'une information très intéressante. Vous en pensez quoi ?
Alors moi, je trouve que cette information, elle est inintéressante. Et c'est pour ça que moi non plus, je veux pas la donner. Mais au bout du compte, on la donne. Mais je veux pas que ça soit la première chose qu'on reçoit. C'est comme si, quand on regardait un tableau, on en parlait tout à l'heure, comme si on vous disait, ben voilà, ce tableau, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du blanc.
Oui, c'est vrai, vu comme ça, je
comprends. Voilà, à la fin, on n'aura rien appris et on aura juste été justement dans cette raison.
Oui,
pas
mais
dans l'émotion.
Je pourrais vous objecter que...
Objectez-moi, j'adore.
Que dans le cas de la peinture, comme on a une grande éducation de fait, parce que dans l'histoire de l'art, c'est un art dominant, et ben du coup, ça nous apporte rien de savoir qu'il y a du bleu, du orange. En revanche, on est tellement inculte dans la question des odeurs et de ce que vous avez appelé les ingrédients du nez, que finalement, ça pourrait nous aider à nous ouvrir à quelque chose qui nous échappe.
Oui, ça nous aiderait à raisonner de plus en plus sur quelque chose qui est irraisonnable. Donc ça nous
empêcherait... Vous voulez préserver le mystère.
Non, c'est pas du tout une histoire de mystère. Ce que je dis, c'est que un parfum, ça se sent avec le corps, avec les émotions. Et finalement, ce qu'on a appris depuis des siècles, c'est à toujours raisonner et à finalement s'amputer du ressenti, des émotions, et à toujours le convoquer dans un deuxième temps. Malheureusement, dans un deuxième temps, des fois, c'est trop tard. Et finalement, dans le cas de l'olfaction, heureusement, on ne peut fonctionner que émotionnellement et instinctivement. Donc, il ne faut surtout pas essayer de rationaliser avant de ressentir.
Je comprends.
Et une dernière chose, c'est que simplement, les ingrédients d'un parfum, de la même manière que savoir qu'il y a du bleu et du rouge dans un Picasso ne donne rien de l'intérêt de l'œuvre, savoir qu'il y a de la rose et du jasmin dans un parfum, c'est souvent faux et ça ne donne rien de l'intérêt de l'œuvre.
Merci beaucoup. Vous m'avez convaincu et nous allons fêter ça avec une nouvelle pause musicale.
To the bridge under the pines, feels so wrong. Your affection is gone, I know the deal. So drive away and let it die. So drive away and let it die. Highway 27 lights are drifting in my eyes. There is no shelter in your arms. The highway 27 lights are drifting in my eyes. Now drive away.
C'était Woodkid, Highway 27.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours, nous avons la joie d'être toujours avec Mathilde Laurent, née chez Cartier. Et justement, avant cette pause musicale, on évoquait les correspondances. Du coup, c'est trop tentant, j'aimerais vous demander ce que cette musique évoque comme odeur.
Alors, ça m'évoque tout de suite des choses assez graves. Des notes assez graves. En parfumerie, on parle de notes pour parler des ingrédients, justement. Ces sons très graves, très planants, ça m'a évoqué, évidemment, une molécule de synthèse, puisque en musique, la synthèse est parfaitement admise, et en parfumerie, toujours pas, alors que ça fait bientôt 150 ans qu'elle est reine en parfumerie. Donc ça m'a évoqué des effets d'isobutylquinoléine.
Ah bon ? Expliquez-nous un peu ce
voilà.
que c'est.
L'isobutylquinoléine, c'est une molécule magnifique qui a été utilisée dès le début du XXe siècle et qui a des notes de cuir et en même temps des effets de poivron un peu cramé. Et c'est une sublime note de l'histoire de la parfumerie.
Vous pouvez répéter le mot ?
Isobutyl. Quinoléine.
C'est presque de la poésie. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure l'herbe coupée, ça m'a fait penser à plein de choses. Est-ce que vous avez tout simplement une ou quelques odeurs préférées qui peut-être remontent, je sais pas, à votre enfance, à vos vacances en Corse, quelque chose qui revient tout le temps comme ça, qui vous raconte ?
Alors, non, je crois que pour un parfumeur, ça serait comme un empêchement. d'avoir une odeur préférée ou deux ou trois odeurs préférées. Mes odeurs préférées, c'est les ingrédients que je sens quand je travaille. C'est vraiment une joie toujours renouvelée de sentir un ingrédient de parfumerie tellement. C'est à chaque fois, que ça soit un synthétique, les synthétiques peuvent être très complexes, ou un naturel, ils sont toujours très complexes, c'est toujours une grande joie et un vrai voyage.
D'accord, ça me fait passer à cette idée du voyage comme ça, c'est parce que ça monte par le nez et ça nous emmène ailleurs, quoi, dans une vision du monde quasiment. Mmh. Et finalement, est-ce que un parfum c'est une vision du monde ?
Complètement, un parfum c'est réellement une appréhension du monde. C'est comme un message, en fait, qui invite à voir le monde par toutes les sensations qu'il procure, en fait. Donc, ça peut être un message de joie, ça peut être un message d'apaisement, ça peut être un message, au contraire, de contraste très impressionnant, très violent. Ça peut être un message de rugosité, ça peut être un message très rock'n'roll. Vraiment, pour moi, le parfum est véritablement une expression, un vrai langage dans lequel je donne vraiment aussi une vision du monde, même par rapport à des sujets actuels, le changement climatique, voilà. Et je dis souvent que choisir un parfum, c'est voter pour le monde qu'on souhaite.
C'est très intéressant. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur quelque chose à quoi on pense tous depuis le début, sans l'avoir encore nommé, c'est le rapport entre le parfum et le désir, le rapport entre l'odeur et la sensualité. Et à ce sujet, vous allez vous faire écouter ceci.
Le propre du parfum, c'est de restituer ce dont on est privé. Mais en même temps, ça ne donne jamais que l'absence de ce dont on rêve, le parfum, de ce dont on est privé.
C'est étrange comme idée, ça vient de Monsieur Bardet. Est-ce que vous croyez que le parfum nous donne que de l'absence ou pas en même temps de la présence ?
Alors justement, j'adore, merci Monsieur Bardet. Pour moi, le parfum justement est né de la frustration et du désir. En fait, le parfum naît du désir insatiable, enfin, et très violent de l'homme d'emporter la beauté olfactive de la nature avec lui.
Ah oui,
de la conserver et de la transformer pour la garder éternellement. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le mythe fondateur de la parfumerie.
C'est une figure de chaman, de druide, quelque chose comme ça ?
Non, c'est vraiment l'idée que dans la nature, vraiment shooté, émerveillé par l'odeur d'un muguet, par exemple, qui est le symbole de l'éphémère, puisque le muguet ne dure que quelques jours par an, et pourtant son odeur fascine l'humanité. C'est vraiment l'émerveillement qui suscite cette envie de posséder, cette envie d'avoir avec soi, cette envie de garder la joie, de garder l'émerveillement, de garder l'élévation. Donc l'homme va essayer en faisant des infusions, en des distillations. En fait, l'homme va chercher, même en mettant ses fleurs dans du gras, ce qu'on a la technique de l'enfleurage, par tous les moyens, l'homme va chercher à conserver cette odeur ou à pouvoir la reproduire.
Mais alors, quand vous faites un parfum, c'est le même pour tout le monde. Et pourtant, chacun choisit son parfum et finalement se singularise avec un parfum qui est le même pour tout le monde. Comment c'est possible ?
Tout à fait. Premièrement, c'est possible juste parce que la plupart du temps, on ne connaît pas d'autres personnes qui portent son parfum.
Oui, si, comme ça arrive.
Voilà, ça
avec
arrive.
Des parfums, si vous espérez que un parfum que vous avez lancé marche, il va être porté par plein de monde.
Bien sûr, mais finalement, c'est quand même assez rare d'avoir trois amis qui portent le même parfum.
En tout
vous.
Cas, moi, je porte Terre d'Hermès. Je suis désolé.
Et vous avez raison. C'est un chef-d'œuvre.
C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, vraiment un coup de cœur incroyable. J'ai l'impression de m'habiller avec ce parfum. Un peu comme dans la chanson de Gainsbourg. Elle ne portait rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Et donc, je me sens visé. Et il y a plein de gens qui portent ce parfum, quand même. Mais il n'y a pas la même odeur chez les uns et chez les autres. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Alors, il a la même odeur chez les uns et chez les autres, je vais vous l'expliquer après. Mais ce qui est important, je pense, c'est que ce qui est unique et la raison pour laquelle vous avez l'impression de vous habiller avec, c'est ce qu'il vous rappelle à vous.
Ah oui, d'accord.
Ce qui est unique, c'est ce qui se passe entre vous et ce parfum.
C'est ce que ce parfum
vous dit à vous et rien qu'à vous.
Mais vous ne pensez pas que physiquement, le mélange, la rencontre avec la peau crée quelque chose qui va changer en partie l'odeur?
Pas du tout.
C'est donc dans ma tête à moi?
Non, pas du tout. C'est pas dans votre tête, c'est dans l'imaginaire commun, parce que ça a été beaucoup martelé par des marques qui ont essayé finalement de déjouer cette idée dont vous parlez, que si j'achète un parfum dans le commerce, peut-être que d'autres gens l'auront. Alors pour déjouer cette idée, beaucoup de marques ont commencé à expliquer que la peau rendait unique le parfum.
Mais donc vous dites que c'est faux?
C'est absolument faux, parce que justement, pour avoir travaillé longtemps dans des très belles maisons et pour avoir créé des parfums qui sont portés et que je peux sentir dans la rue, je peux vous dire que je reconnais ma panthère sur n'importe qui, n'importe quand.
Est-ce que vous avez envie de dire, mais c'est moi qui l'ai fait?
Alors, je suis toujours très émue. En fait, c'est quelque chose qui à chaque fois me donne la chair de poule. C'est un moment très particulier parce que oui, j'ai envie de dire merci en fait plutôt. J'ai envie de dire ah, vous portez la panthère. Oh, merci, ça me fait tellement plaisir.
C'est un
tellement
peu comme
génial.
Quand un écrivain voit quelqu'un lire son livre dans le métro.
Ben oui, c'est fou et c'est improbable. C'est comme si la boucle était bouclée, parce que quand on lance un parfum, moi j'ai toujours l'impression que mes parfums sont portés par personne. Je vois jamais personne porter mes parfums.
Mais pour être honnête, et vous allez comprendre ce que je dis, quelqu'un qui lit un livre dans le métro, je pense qu'il sait qu'il y a un auteur quelque part. Mais quelqu'un qui porte un parfum, à vrai dire, il pense pas au parfumeur.
Exactement.
C'est pour ça que ce serait encore plus surprenant si vous arriviez pour lui taper sur les poings en disant « Tu sais, c'est moi qui l'ai créé ce jus. » On dit bien jus.
Oui, oui, tout à fait. On dit jus, voilà, quand on parle plus souvent du parfum en vrac, c'est-à-dire du parfum quand on en fabrique des litres ou même des tonnes, avant de le mettre en flacon, on parle de jus. Oui, en tout cas, pour moi, c'est toujours une grande reconnaissance quand je sens quelqu'un qui porte mon parfum. Et en tout cas, ce que je peux attester, donc...
C'est que c'est la même odeur.
C'est que c'est la même odeur sur tout le monde. En revanche, ce qui peut faire changer incroyablement un parfum quand vous le portez, c'est l'odeur de votre lessive ou l'odeur de votre déodorant, parce que ce sont aussi des odeurs
et ça va brouiller les pistes.
Et ça va brouiller les pistes. Donc parfois les gens ont cette impression que le parfum est différent sur chaque personne, mais très souvent c'est l'écologie de la personne qu'on sent qui change le parfum.
Et alors, c'est quoi pour vous le parfum de la liberté?
Le parfum de la liberté, c'est ce que je crée régulièrement, parce que c'est le parfum de l'inspiration, c'est le parfum de l'envie, de l'amusement, de la création.
Mais quand même, vous travaillez chez Cartier, on est dans une superbe maison, mais on est quand même dans un univers capitaliste. Il y a la fidélité à une histoire, il y a des contraintes, et en même temps, vous parlez beaucoup de nouveautés. Comment vous jouez avec tout ça? Comment vous pouvez être à la fois dans l'héritage et la fidélité à l'héritage d'une très belle maison, mais c'est aussi une contrainte, et puis la liberté que vous évoquez?
Ben, je dirais, pour faire une image, je dirais que dans mon cerveau, il n'y a qu'une personne. Il n'y a que moi. Et quelque part, en fait, c'est dans ce cerveau, finalement, que vont se rencontrer l'histoire de la maison, ses enjeux, l'histoire de l'art du parfum qui m'importe immensément. J'ai toujours à cœur de rendre hommage, de reprendre, de revisiter l'histoire de l'art de la parfumerie. Et puis aussi la société dans laquelle je vis, le monde dans lequel je vis. Je pense toujours à ce que je vais offrir, à ce dont les gens pourraient avoir envie, que ça soit des hommes ou des femmes. Je ne pense pas mes parfums
oui, j'ai cru comprendre
en termes
que chez
de
Cartier,
sexe.
C'était pas genré, hein. Un parfum, c'est un parfum.
Depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans, on a une collection qui s'appelle Les Heures de Parfum, qui n'a jamais été genrée et qui, en plus de ne pas être genré, n'est pas mixte, comme on dit souvent. C'est-à-dire que les hommes peuvent porter des œillets, des pivoines, et les femmes peuvent porter du chocolat.
Du musc. Ouais.
Du musc, voilà. Mais pour les femmes, tout est ouvert. C'est pour les hommes, en fait, qu'on a relayé les fleurs, qu'on a cessé de leur offrir de l'ambre et de la vanille.
Les pauvres, c'était...
Oui, alors que c'était le cas dans les années 50, 60, où la parfumerie était... était beaucoup moins genrée qu'aujourd'hui. On a vraiment fait des pas en arrière sur la question du genre en parfumerie.
Alors, en philosophie esthétique, on a coutume de distinguer le beau et le sublime. Le beau, c'est ce qui est proportionné, harmonieux, qui crée de l'apaisement. Et le sublime crée une élévation, mais un peu une déchirure en même temps. Pour vous, un parfum, ça doit viser le beau ou le sublime ?
Le sublime.
Ah oui ?
Absolument.
Un peu de disharmonie, quoi.
Oui, complètement. Et c'est pour ça que je parle tout le temps. C'est Edmond Rudnitska, le pape de la parfumerie moderne, qui en a parlé avant moi, mais je l'ai repris et je l'ai développé en quelque sorte. Je parle donc toujours de choc olfactif. Parce qu'il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de parfum, de rencontre avec un parfum, si ça ne passe pas par un choc esthétique
olfactif. Quelque chose
olfactif.
Comme un heurt. J'ai coutume de poser à mes invités une dernière question. Écoutez-la sans préjugés, puisque c'est ainsi que vous avez été élevé, et essayez de me répondre. Finalement, vous êtes l'enfant de quoi ?
Je suis l'enfant d'un cerveau étonnant que j'ai dû apprendre à découvrir.
Comment ?
En l'écoutant. En fait, et en me laissant guider, en me laissant aussi d'une certaine manière un peu dominée par ce cerveau qui avait envie de tout sentir, de tout voir, de tout goûter et de jouer et de s'exprimer aussi, de dire à quel point ce qu'il voyait, sentait, goûtait... l'intéressait, lui donnait de la joie et à quel point il avait envie de le partager et de l'offrir.
Mathilde Laurent, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter, de se promener comme ça dans un monde d'odeurs et de parfums. Ce que je vais faire pour vous remercier, c'est essayer de résumer pour nos auditeurs ce qui pourrait être votre philosophie de la vie. Et je m'accrocherai pour cela à ce dernier mot. Vous avez aimé vous laisser dominer. C'est très beau comme idée. Parce que ça veut dire qu'on est sorti du cartésianisme, sorti de la maîtrise, sorti de l'arraisonnement du monde. On se laisse porter, on se laisse inspirer. Et puis on aime dans cette philosophie les correspondances. On voyage comme ça d'un son à une image, d'une image à une odeur. Et quelque part, on cherche quelque chose qui s'appellerait davantage le sublime que le beau. Le trouble bien plutôt que l'évidence. On parle souvent d'évidence. Et puis aussi dans cette philosophie, on sent la passion de la nouveauté, la curiosité. En essayant de la réconcilier avec la fidélité à quelque chose qui est une histoire, quelque chose qu'on conserve dans l'instant même où on cherche à inventer du neuf. Mathilde Laurent, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Tristan Gratalon, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée, mais préparée c'est un peu trop technique, elle a été pensée, imaginée, nourrie, par le travail d'Estelle Gap et d'Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours à 10h du matin, sous le soleil exactement, sous le soleil de Platon. Bonne journée sur France Inter.